Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Du blasphème à la balourdise. Sait-on que le mot blasphème est composé d'une injure et d'une réputation ? Cette irrévérence vis-à-vis de la religion d'abord et de tout ordre établi ensuite a toujours été sévèrement réprimée, nous le constatons encore aujourd'hui, alors que le blasphème des uns ne devrait pas être celui des autres et vice-versa. Mais ceci est un débat philosophique dans lequel nous n'avons pas qualité pour en parler. Saint-Louis ordonna que l'on perça la langue aux blasphémateurs. Un peu plus de 3 siècles plus tard, cette peine fut augmentée. Un arrêt du Parlement de Paris en date du 27 janvier 1599 condamna un blasphémateur à faire amende honorable, à avoir la langue percée avec un fer chaud, les 2 lèvres fondues et à être banni à perpétuité. Il semblerait que le dernier condamné à cette peine fut un certain Jean Hudon en 1709. C'est que l'on ne balinait pas avec ce crime qui consiste à avoir une pensée ou une parole injurieuse à Dieu. Même les églises, lieux d'asile des criminels de toute espèce, ne pouvaient accueillir ceux qui s'en étaient rendus coupables. L'abbé Marguet était formel sur ce sujet. Ce précieux ecclésiastique qui termina sa carrière comme vicaire général de Nancy et supérieur du grand séminaire du même diocèse, fit paraître en 1820 à Besançon, chez Antoine Montarsolo, imprimeur libraire, un essai sur le blasphème. Ce petit ouvrage de 144 pages connut en France en 5 ans, au moins 9 éditions. Il eut tellement de succès en Belgique qu'il y fut réimprimé 6 fois en 1 an et demi. On fit même mieux. Là, dans le plat pays, la Société catholique de Belgique décida pour propager plus rapidement ce petit livre qu'il en serait distribué 6 exemplaires à chacun de ses membres. Un rêve pour un auteur. Celui-ci fut béni plus encore en apprenant la création d'une association pour la répression du blasphème. Mais fut déçu qu'en France, il n'y avait pas de moyen de former encore un établissement de ce genre. À notre connaissance, il ne vit jamais le jour. L'abbé Marguet était aussi un moraliste, c'était moins cette sentence admirable. Quand un regard suffit, contentez-vous d'un regard. Quand un mot suffit, contentez-vous d'un mot. Rassurons-nous, il fut aussi l'auteur de plusieurs ouvrages qui prouvent sa piété. Il commença par composer un traité de la sanctification du dimanche, qui fut traduit en flamand, puis en 1825 par un traité de la résignation à la volonté divine, également imprimé à Besançon par Montarsolo, ainsi qu'une réfutation de la Bible, enfin expliquée par Voltaire. Mais c'est davantage l'essai sur le blasphème qui lui valit de devenir, en 1835, membre correspondant de l'Institut historique. Les méfaits de la Révolution n'étaient pas loin et il éprouvait quelques difficultés à considérer qu'une nation dont les rois sont fils aînés de l'Église et qui portait autrefois les titres glorieux de nation très chrétienne a refusé solennellement d'insérer le mot de religion dans ses lois. Le nom de Dieu ne paraît pas une seule fois dans les codes. Il y a plus, on a soutenu impunément il y a peu de temps, en présence des premiers magistrats du royaume, que les lois sont athées et doivent l'être. Eh oui. Les hommes politiques de tous les pays ne craignent plus d'être pertusa, autrement dit, être troués. Quoique, devraient-ils se méfier ? Un dictionnaire définissait dans les années 1820 le balourd comme un homme qui donne quelquefois de l'intérêt à la sottise. Les chroniqueurs politiques, du moins ceux qu'il en reste, ont pris le relais des bourreaux. Ils se saisissent des moindres bourdes commises par ces politiques et les exposent dans leur étrange lucarne comme autrefois au pilori. Les périodes troublées sont aussi celles des mots, et nul tribun n'est à l'abri de leurs méfaits. Et la Révolution fabriqua sans doute la plus belle collection de ces expressions qui réjouissent ou navent les amateurs d'anecdotes. Pierre-Adolphe Capel était de ceux-là. Il ramassa notamment au club des Jacobins tout ce qui s'était dit autour de lui et finit par faire imprimer en l'an 9, c'est-à-dire en 1801, un ouvrage au titre tristement alléchant « Ânerie révolutionnaire » ou Balourdisiana, Bétisiana, etc., etc. Ce petit livre de 144 pages est sous-titré Anecdote du jour recueillie et publiée par CAP:L. On remarque des initiales qui dissimulent faussement le nom de l'auteur. Celui-ci, conscient des propres récoltes, place en exergue ces deux vers. Puissent-elles vous faire rire autant qu'elles font pleurer? Mais comment apprécier par exemple ce rapport de l'ordre du jour de la séance de la société mère, autrement dit la société dite des Jacobins, du 30 janvier 1792? Elle était consacrée au sucre au café. Le citoyen Bazire, après un long discours, finit par assurer que le sucre, ce mets friand, est un ragoût contre nature. Il affirmait qu'une république ne prenait jamais de café. Bref, il recommandait de le proscrire de l'Empire, sic, français. Un membre de la société, saisi d'un enthousiasme citoyen, s'écria « Alors, renonçons pour toujours à l'usage du sucre et du café. Je jure donc par mon bonnet rouge et par ma moustache que jamais n'entrera dans ma maison ces dorées pernicieuses et suspectes. » Si le contenu de ce balourdisiana n'est pas, comme on peut s'y attendre, d'une très grande finesse, il a séduit plus d'un lecteur, car l'éditeur, le Normand, réédita l'ouvrage en 1815. L'exemplaire que nous avons sous les yeux porte l'ex-libris d'Oborelli, un parent sans doute de Hyacinthe, l'auteur du statut constitutionnel de 1848, qui engendra la révolution italienne de 1860. Entre-temps, Capel connut une curieuse aventure. Il avait écrit en 1800 une vie de Marie-Antoinette et fut emprisonné au temple, là même où la malheureuse reine avait été hébergée contre son gré. 10 ans plus tard, il publia un dictionnaire de morale, de science et de littérature. Mais ce n'est pas grâce à cet ouvrage qu'il passa à la postérité, auprès des chanteurs. Il était libraire lorsqu'il ressuscita en 1806 avec le chansonnier vaudevilliste, mais dans le civil sous-chef au ministère des Finances, Armand Gouffé, sous le nom de Caveau moderne, l'ancien caveau fondé en 1733 par Charles-François Panard. Capel se fit l'éditeur des chansons de Caveau et publia La clé du caveau, à l'usage des chansonniers français et étrangers, des amateurs, auteurs, acteurs, chefs d'orchestre. En fait, un recueil de 2390 airs. L'histoire ne dit pas si quelques-uns avaient été inspirés par les Jacobins, mais tout finit bien pour lui, car il acheva sa carrière en tant qu'inspecteur de la librairie.